Et puis, dans un premier temps, ben, un sujet que je suis très contente d'aborder aujourd'hui, parce que quand sont survenus tous les événements, ces malheureux événements, ces dénonciations des derniers mois, moi, il y a une chose qui me venait en tête et qui me frappait à chaque fois, c'est à quel point, parfois, le pouvoir, des postes de pouvoir pouvaient mener à de l'abus. Je me suis demandé comment il se faisait que des patrons, parfois, basculent vers ça et perdent complètement le contrôle. Et pourquoi il y a d'autres patrons qui demeurent en équilibre et qui ne vont pas vers ça? Et je voulais faire le point là-dessus. Et alors, j'ai invité des gens qui vont venir nous dire qu'est-ce que ça prend pour être un bon patron. Écoutez-les et essayez de voir si vous avez les qualités pour être un cadre, parce que ça prend des qualités essentielles. Alors, je vous présente nos invités aujourd'hui. Madame Brigitte Paquette, elle est présidente de Direct Coaching. Vous comptez, Madame Paquette, 30 ans dans le milieu des affaires comme entrepreneur.
Exactement.
Et aujourd'hui, vous intervenez directement dans les entreprises auprès des leaders, c'est ça?
Absolument.
Alors, vous les formez, vous les aidez. Est-ce que vous ciblez des gens qui pourraient devenir cadres dans les entreprises aussi?
Oui, parfois, on s'occupe beaucoup de la relève. On fait de la formation, on est surtout en coaching puis en développement organisationnel. On s'occupe beaucoup d'équipes aussi, de direction, pour apporter cette synergie-là, pour faire en sorte que les gens aient envie de les suivre. On parle de followership.
De followership. Alors, vous savez ce que ça prend pour être un bon patron. Quelles sont les qualités essentielles? Ben, on va y revenir. Je vais présenter mes autres invités. Il y en a un qui a de belles qualités de patron, je pense. Je suis pas une de ses employées, mais j'ai l'impression que c'est un bon boss. Vous le connaissez. Son histoire est un success story. C'est l'un des visages maintenant de la réussite de l'entrepreneuriat au Québec, chez les jeunes. Il s'appelle Nicolas Duvernois. C'est le président de Pure Vodka. Bonjour, Nicolas.
Bonjour,
merci d'avoir
bon
accepté l'invitation.
Merci.
Et notre autre invité est David Dion. Il est associé chez Recrutement Précision. Vous avez aussi été chasseur de tête, hein, David?
Oui, effectivement, oui.
Et chez Recrutement Précision, donc, c'est encore un travail de chasseur de tête. Donc, c'est les entreprises qui vous engagent pour aller chercher des employés dont ils ont besoin.
En fait, oui, je suis associé chez Recrutement Précision, puis Recrutement Qualité, Recrutement Prestige. Donc, c'est trois firmes de recrutement qui ont leurs spécialités respectives. Et puis, effectivement, là, j'ai commencé ma carrière en 2 ans de temps là, en tant que chasseur de tête moi-même. Puis maintenant, on a une équipe qui, au total, occupe une trentaine de 30 personnes, un peu plus que 30 personnes, en incluant le personnel administratif. Je crois qu'on frise le 35. Et puis, on fait de la chasse de tête pour nos clients. Okay. Donc, effectivement, oui.
Et parmi les gens que vous chassez, il y a des cadres, des directeurs. Alors, vous savez ce que les entreprises et les dirigeants veulent avoir comme qualité. Alors, tous les trois, c'est la première question que je vais vous poser. Essayez de me trouver une, deux ou peut-être trois qualités essentielles que ça prend pour être un bon patron, pour être un vrai bon patron auprès de ses employés. Nicolas?
Moi, je crois que c'est la curiosité. Je crois que la curiosité, c'est quelque chose qui est important, peu importe son poste. Mais en tant que patron, il faut être curieux de non seulement de voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour tes employés, mais d'être curieux aussi de voir ce qui se passe dans ton entreprise. Il y a beaucoup de patrons qui savent pas ce qui se passe dans leur entreprise. Donc, la curiosité mène à tout, comme on peut dire, et puis la curiosité mène surtout à être au courant de la porte d'entrée à la porte de sortie de ce qui se passe. Puis je crois que ça aide à être un bon patron.
Et de ce que vivent nos employés.
Exactement.
Aussi. Ça, c'est très, très
important.
Oui,
il y en a qui ne parlent pas à leurs employés. Donc, ils peuvent pas savoir c'est quoi la réalité derrière tout ce qui se passe.
Et pour vous, Mme Paquette, ce serait quoi les deux ou trois qualités essentielles?
Les deux ou trois qualités, je vous dirais, l'intelligence sociale est super importante. L'intelligence sociale, justement, la connaissance de soi d'abord, parce qu'il faut que tu saches qui tu es, puis ce que tu n'es pas non plus, pour être capable de bien t'entourer et puis d'être au courant de vraiment tout ce qui se passe, de connaître les comportements, les styles, s'adapter à chacun pour pouvoir mobiliser, être capable de les influencer pour pouvoir produire tout ça. Mais il y a une synergie.
Donc,
qui se passe.
Quelqu'un, un homme ou une femme qui n'aurait aucune sensibilité émotionnelle ne ferait pas un bon patron.
Non, absolument pas. C'est encore plus important. 80% du comportement de l'intelligence sociale est en avant de l'intelligence intellectuelle.
OK. Mais ça, c'est ce que vous dites, mais j'ai l'impression que dans les grandes entreprises, je ne sais pas jusqu'à quel point on se soucie de ça. Parce que les grandes entreprises sont souvent menées par des hommes d'une certaine génération qui n'ont peut-être pas la conscience de l'importance de cette sensibilité-là. Vous me comprenez, Mme Paquette?
Oui.
Vous savez où je veux aller, là?
C'est de plus en plus là. parce que avec tout ce qui se passe, avec la vitesse accélérée des affaires, puis Nicolas pourrait en parler, là, avec les gens de toutes sortes de cultures, de diversité, les intergénérations, on n'a pas le choix. Les hiérarchies s'aplatissent. On cherche un travail collaboratif.
Oui, c'est un travail d'équipe avant tout aujourd'hui.
C'est ça.
Vous êtes vraiment, parce que je regarde un peu vos parcours tous les deux, là. non, il y a vraiment des similitudes. Je pense que Nicolas, à la fin de cette entrevue-là, elle va te confirmer que tu es un bon patron, Brigitte.
Mais j'espère. Moi, c'est ça, test. Au début, je ne savais pas si je suis un bon patron ou pas, mais j'aime bien être invité dans une émission.
C'est comme si tu passais un test.
Exact.
Et moi, je serais curieuse de savoir, David, quand, parce que, bon, de grandes entreprises peuvent vous contacter puis vous dire, parce que j'ai vu sur votre site qu'il y a plusieurs postes de directeur qui sont ouverts, par exemple. Qu'est-ce que le dirigeant de l'entreprise va vous demander d'aller chercher chez un candidat potentiel?
Bon, souvent, ils vont nous demander quelqu'un qui a déjà fait un travail similaire ou un travail qui demandait des compétences similaires, des compétences transversales. Bien entendu, ils vont chercher aussi quelqu'un qui va bien s'ajuster avec leur vision du leadership puis leur culture d'entreprise. Donc, effectivement, là, d'une compagnie à l'autre, les requêtes vont changer dépendamment de quelle est leur culture à l'interne puis de eux, comment ils fonctionnent à l'interne. Ils vont aller chercher quelqu'un qui va bien embrasser ces valeurs-là puis qui va être capable de bien s'accoupler à tout ça puis venir forcer dans la même direction qu'eux.
Mais comment on mesure? Comment ça se mesure, cette qualité-là, cette propension à devenir un bon patron? Ben, par exemple, Brigitte, si vous débarquez dans un bureau pour essayer d'évaluer qui seraient les bons candidats là, à devenir cadre éventuellement, là, est-ce que vous leur faites passer des tests? Est-ce que vous les rencontrez? Vous mesurez quoi?
On mesure... personnellement, je ne fais pas de recrutement. Une fois que les gens sont embauchés, c'est sûr que là, on peut faire des tests de personnalité de toutes sortes. Puis on fait des diagnostics. On pose des questions ouvertes, beaucoup, pour comprendre le comportement, tout ça. Les comportements qui sont productifs, non productifs. C'est difficile à mesurer l'intelligence émotionnelle. C'est difficile de mesurer des qualités soft. Mais on s'en rend compte quand les gens ont envie de partager les savoirs, qu'il y a un bon climat de travail sain, où est-ce qu'il y a une solidarité.
Mais on a longtemps oublié, pendant des années, je dirais, l'humain. Hein? On regardait un CV, on regardait MBA
l'expérience
de Harvard, on va le prendre. Mais avant tout, c'est l'humain qui fait en sorte que c'est une bonne personne ou pas, donc un bon patron ou pas. C'est bien beau d'avoir un CV rempli de faits et de grandes études. Si tu n'as aucune empathie, si je reviens toujours avec ma curiosité, mais je crois que c'est très important, si tu n'es pas curieux, si tu n'es pas juste, à la limite, sympathique, bonne chance pour être un bon patron.
Que ça ne marche pas, que ça ne dure pas longtemps.
Non, c'est ça.
Bon, et on va faire une bien courte pause parce que c'est très intéressant et j'aimerais qu'au retour, on aborde le moment où ça bascule. Pourquoi des hommes, parce que malheureusement, ce sont souvent des hommes qui ont été pointés du doigt ces derniers mois, là, qui perdent le contrôle. Qu'est-ce qui mène à l'abus de pouvoir et qu'on ait envie de prendre le contrôle des gens qui travaillent pour nous? Comment ça peut se rendre là? J'aimerais qu'on aborde ça au retour. Si vous voulez réagir, j'aimerais ça vous entendre. Peut-être que vous avez un bon patron, peut-être que les qualités
s'il vous plaît,
qu'on nomme...
S'il vous plaît.
Si vous travaillez pour Nicolas, vous nous appelez. Dans le Grand Montréal, vous faites le 514-790-9850 et de l'extérieur de Montréal, vous composez sans frais le 1-866-790-9850. Alors, je vous rappelle qu'à l'émission d'aujourd'hui, on a plein de beaux sujets. On va parler tantôt des voyages dans le sud. Là, si vous habitez dans la région de l'Outaouais, de la Mauricie, nos auditeurs de l'Estrie et aussi de Montréal sont peut-être gelés, ont envie de partir dans le sud. On aura peut-être de belles aubaines de voyage pour vous à la toute fin de l'émission. Mais d'abord, on s'intéresse aux patrons d'entreprise. On veut savoir ce que ça prend pour être un bon boss et surtout pourquoi parfois ça chavire. Je vais vous raconter quelque chose à mes invités et à vous. Il y a environ 2 ou 3 semaines, je suis embarquée dans un taxi puis on s'est mis à parler de ce sujet-là. Puis il me racontait, le chauffeur de taxi, que il avait déjà travaillé dans une usine où un employé avec qui il travaillait, qui est un collègue de travail et un ami, avait été nommé contremaître. Puis il dit, c'est un super bon gars, un gars que tout le monde aimait dans l'usine. Il a été nommé contremaître, Puis il dit, il n'y a plus personne dans l'usine qui le reconnaissait. Il est devenu, pas un monstre, mais presque, quelqu'un d'extrêmement désagréable, de contrôlant, de dirigeant. Et ça m'amène donc à vous demander pourquoi et qu'est-ce qui fait que ça bascule? Qu'est-ce qui mène à ça? Pourquoi ça?
Nicolas? Ouais, moi, je dirais c'est parce que c'est enivrant. C'est une drogue, le pouvoir. Mm-hmm. Et quand les personnes, peut-être, vivent pas la vie nécessairement qu'ils veulent aussi, font le mélange entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ben là, ça fait un cocktail qui est très nocif. Et puis, les personnes ont peut-être pas de pouvoir sur leur vie personnelle, mais ils ont le pouvoir sur des employés ou ils ont le pouvoir sur telle ou telle situation et ils en abusent. Mm-hmm. Je crois aussi que c'est enivrant dans le sens où plus on connaît de succès, plus on a une facilité d'accès à certains trucs. Premièrement, souvent, on fait plus d'argent. Deuxièmement, les personnes t'écoutent plus, sont plus à tes genoux. Donc, c'est au fil du temps, je crois qu'il y a une usure qui fait en sorte que la personne s'essaye. Puis à la fin, il devient un monstre parce que tout est permis. Parce que personne ne lui dit jamais, fais pas ci ou fais pas ça. C'est lui le boss.
C'est ça.
Tu nommes bien les choses, Nicolas, parce que c'est vrai que ça a un effet pervers.
Totalement.
Exact.
Ouais.
Et puis, c'est là où toute la gestion de l'ego rentre en ligne de compte. C'est pas drôle, mais tu sais, les gens qui ont justement pas cette connaissance de soi, ni cette observation-là de leur comportement, de leur influence, de l'impact qu'ils ont chez les autres, c'est facile de devenir un monstre. Ça prend beaucoup, c'est complexe aujourd'hui d'être un leader, d'être un bon boss. C'est complexe parce qu'on a beaucoup d'attentes envers eux. Et puis, les caméras sont toutes sur eux. Fait que si, heureusement qu'aujourd'hui, tout se dénonce, et puis je souhaite de tout cœur...
C'est récent, hein, quand même.
Oui,
ouais.
mais
heureusement. Mais là, il va falloir que les patrons travaillent différemment.
Heureusement, exact.
Il y a Farah qui aimerait nous parler, elle est au bout du fil, elle a une opinion sur les patrons. J'espère que c'est pas... Bonjour, Farah.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Alors, vous voulez nous parler de votre patron à vous?
Oui, en fait, moi, je travaille dans une organisation au niveau de dans le domaine de la santé. Donc, on a plusieurs patrons. Mais moi, je trouve que ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute. Oui, comme vous avez parlé, d'être à l'écoute des employés. Puis ça les rend, je trouve, plus productifs d'une manière que, comme on dit souvent, un employé heureux en vaut deux. Donc, c'est une matière bénéfique pour le patron, justement, qui supervise des employés ou qui a une redevance, je pourrais dire, qui a un compte rendu en termes, je pourrais dire, de données probantes, quoi que ce soit. Tu sais, en fait, quand il y a un résultat attendu derrière quelque chose, derrière un travail, c'est important de rendre les employés heureux puis de s'attendre vraiment qu'ils soient à l'écoute. Et puis aussi, moi, je trouve que la valorisation...
La reconnaissance.
Oui,
ça, c'est très, très important.
La valorisation des employés, ouais. Exactement. C'est très important de voir que chaque personne qui est là est un membre à part entière et unique et apporte quelque chose à l'entreprise. Donc, tu sais, vraiment, l'écoute va amener ça. Puis moi, je trouve aussi, comme vous avez dit, la reconnaissance, parce que souvent, les attentes vont être descendants et non ascendants. Donc, pour moi, c'est très important de voir, OK, c'est vrai, nous, on a des attentes envers vous, mais on s'attend à quelque chose envers vous, tu sais. En fait, il faut que vraiment l'opinion sorte d'en bas aussi.
Et que ce soit réciproque, oui.
Exactement.
David, vous voulez réagir?
Oui, je suis très d'accord avec ce que Farah dit.
Oui.
Je pense que c'est important de réaliser aussi que le patron qui décide de gérer son entreprise de façon trop émotive, c'est souvent un danger qui guette les patrons, c'est qu'à un moment donné, ils répondent à des émotions au lieu de prendre le temps de laisser les choses décanter. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, ça rejette vers leur employé beaucoup de négativité, puis ça crée un climat malsain. Puis, je pense qu'au niveau de la communication, ça vient couper les ponts. Puis, c'est important que les patrons restent connectés avec leur employé pour aller chercher l'information, savoir comment ils se sentent, puis s'intéresser à l'humain derrière chaque employé.
Et je crois qu'on sous-estime aussi le fait de l'importance d'être juste, d'être fair, comme on dit. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Il faut pas que t'aies de parti pris pour un employé plus envers un autre.
Et ça, c'est difficile. Hein?
Non, mais ouais. Ça, les employés le reconnaissent énormément et sont même d'accord de ne pas avoir telle ou telle chose quand ils
parce
voient
que ça
que
les
c'est...
met mal à l'aise là, d'avoir des privilèges. Ils
exactement.
Sont pas à l'aise avec leurs collègues
et
de travail.
Et les autres, ça les frustre.
Merci beaucoup, Farah, de votre appel. Et là, il y a Samuel qui aimerait nous parler. Ça va être très intéressant, je pense, parce que lui, c'est un patron qui a réalisé un jour qu'il était un mauvais patron.
Wow!
Bonjour, Samuel.
Oui, bonjour, c'est pas exactement ça.
Ah, okay. Ben, bye! Racontez-nous.
Donc, j'étais employé dans le commerce du détail dans le temps que j'étais étudiant. C'est un emploi étudiant. J'étais un excellent employé. Je me donnais vraiment à fond. Et puis, méritant de mes efforts, à un moment donné, mon boss m'a promu à gérant. Donc, j'étais gestionnaire de chiffre de soir au moment où il n'y a plus de patron dans la place. Donc, la tête dirigeante était devenue moi-même. Et en l'espace de deux mois suite à cette promotion-là, j'ai donné ma démission parce que rien n'allait plus, mais vraiment plus. Donc, j'étais en conflit avec le trois quarts des employés avec qui je m'entendais super bien.
Et là,
avant.
Là. Oh, oui.
Puis, c'est même venu au point. Il y en avait là-dedans qui étaient de mes amis, là, mais à job, je voulais plus rien savoir d'eux autres.
Mais Samuel.
La raison derrière ça, c'est pas une question d'enivrance du pouvoir ou quoi que ce soit. Au contraire, le pouvoir me puait au nez parce que je leur demandais de faire des choses qui devaient être faites. Que dans les circonstances égales, quand j'étais employé, moi, je les faisais très bien. Et là, c'était pas fait à ma façon et où c'était carrément pas fait. Là, après le premier mois, ça venait au point même que je me faisais dire « Ah non, pourquoi toi, tu vas pas le faire?
Ah, » ouais, vous seriez fait détester, mais vous avez eu une sagesse remarquable, je trouve, Samuel, de lâcher ça, là.
Ouais.
Ben il y a beaucoup
avec mon patron de faire comme ouais là ça marche pas puis moi de dire ben you know what I'm leaving.
Bye bye.
Mais c'est super difficile d'être promu patron. Un patron qui vient de l'extérieur va avoir une crédibilité X parce que le monde ne sait pas d'où il vient, donc ils se disent bon ben c'est un patron. Mais un employé qui est égal à tout le monde, qui devient tout d'un coup patron, waouh, là il y a tout un challenge. Moi j'ai lavé les planchers longtemps à l'hôpital, qui est un endroit extrêmement hiérarchique, un hôpital, plutôt qu'un linéaire où on travaille tous en équipe. Un hôpital, oublie ça. Surtout quand tu laves le plancher. Malheureusement, j'étais un fier laveur de plancher, mais quand un de nos laveur de plancher devenait patron, et puis on parle pas du président directeur général de l'hôpital.
Il y a une jalousie qui s'installe.
Oh mon Dieu, pour une prime de 10 sous de l'heure, là, c'est
mais c'est pas les sous, c'est le privilège.
Peut-être que dans le cas de Samuel, les choses se sont faites peut-être un petit peu trop brusquement aussi. Peut-être qu'il aurait pu se faire accompagner par son patron à lui dans la transition, puis être...
Des formations aussi, souvent, c'est ça qu'on retrouve.
Okay. Merci beaucoup, Samuel.
Merci.
Merci, joyeuse fête. Écoutez, le sujet semble vous interpeller. On aimerait vous entendre encore. Si vous voulez nous contacter de la région de Montréal, vous faites le 514-790-9850. De partout au Québec, sans frais, le 1-866-790-9850. Oui, tu allais dire quelque chose, Nicolas?
Mais oui, est-ce que c'est le temps de la pause ou pas?
C'est le temps de la pause,
okay,
pas
parfait.
Mal.
OK, parfait. Au retour, alors.
Là, c'est moi le boss. Ravale tes paroles.
Désolé, boss.
J'ai pas toutes les réponses, là, mais on va essayer de répondre à celle-ci aujourd'hui, à cette question-là. Est-ce que vous feriez un bon patron? Quelles sont les qualités essentielles que ça prend pour être un bon boss? Et surtout pour ne pas basculer dans cet abus de pouvoir là, qu'on a vu beaucoup là, ces derniers mois. Puis c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de dénonciations de patrons. Et là, on a beaucoup ciblé le milieu artistique, mais dans plusieurs entreprises, malheureusement, ça se voit, ces abus de pouvoir-là. Et Nicolas, juste avant la pause, tu allais dire quelque chose.
Oui,
on va te laisser finir ta pensée.
Ça me saute aux yeux à quel point on parle jamais de la formation des patrons et à quel point c'est peut-être là qui est le début du problème.
Une formation que tu n'as pas eue.
Ouais, non, moi, j'ai refusé partout. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis un bon patron. mais je donne un exemple souvent pour faire un MBA, disons, peut-être pour aller avoir des autres études, pour avoir un grand poste. Ils regardent tes notes. Et puis, tu n'es pas accepté si tu n'as pas les bonnes notes. Mais j'ai jamais vu l'étude qui dit que tu es un bon patron quand tu as des bonnes notes.
Non.
Moi, je crois que peut-être qu'il faudrait faire une analyse psychosociale de la personne et regarder son intelligence, son quotient intellectuel social plutôt que son quotient intellectuel à apprendre quelque chose par cœur. Et peut-être que là, on formerait les boss différemment et peut-être qu'on aurait une chance d'avoir des meilleurs boss.
Mais on s'en va peut-être vers ça.
Oui, définitivement.
Brigitte ou David, peut-être dans quoi? Dans 10 ans, on pourrait envisager que ça pourrait être possible, non? C'est trop tôt?
Trop tard.
Non, ça va être beaucoup plus rapide.
Oui, j'ai l'impression
avec les jeunes startups.
Aujourd'hui, oui. Il est difficile. Aujourd'hui, c'est les ressources qui font passer des entrevues aux patrons. Les organisations ont de la difficulté à recruter. Fait que les gens veulent choisir des endroits où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent apprendre, où ils peuvent avancer, où ils peuvent être
travailler
impliqués.
Travailler sur leur projet, des fois.
Travailler sur leur projet, être impliqués dans tout le sens... où est-ce qu'il y a un patron qui a une bonne vision, où il sait où s'en va, il y a de la cohérence, il y a de la constance, il y a un sens de la direction. il y a du courage. Ça prend du courage d'oser dire les vraies choses quand t'es un boss.
Ne serait-ce que, tu sais, faut pas oublier que souvent les patrons, ils ont à remettre les pendules à l'heure. Ils sont obligés parfois de congédier des gens.
Absolument.
C'est difficile, là, tu sais.
Oui.
C'est un peu brise-cœur, là.
C'est un mal nécessaire. Ouais. Il y a des deuils qui se vivent beaucoup en entreprise, mais il faut savoir les vivre aussi en équipe, ces deuils-là.
Puis David, je pense aussi que tant que tu n'es pas mis dans la position du patron, ben c'est difficile de prévoir comment que la personne va réagir à cette position-là. Des fois, les personnes sont attirées vers le pouvoir, mais une fois qu'ils sont rendus en poste, ils ne réagissent pas toujours de la bonne façon. Et puis, c'est là où est-ce que les valeurs fondamentales de la personne vont ressortir. Quelqu'un qui a des, qui a des valeurs d'égalité, égalitaire, qui a des valeurs qui croient au potentiel humain, qui veut travailler dans un environnement de travail agréable, veut pas, avec le temps, ces choses-là vont ressortir. Si tu as quelqu'un d'un peu plus égoïste, entre guillemets, puis que tu le mets dans une position de pouvoir trop rapidement, mais tu peux avoir des mauvaises surprises, ça peut être très dommageable pour
l'entreprise. Comme on le vit avec Samuel tantôt, il y a Maxime qui est au bout du fil qui aimerait réagir. Bonjour, Maxime.
Bonjour, tout le monde, ça va bien ce matin?
Oui,
bonjour,
ça va bien vous-même. Vous avez passé un beau Noël?
Oui, t'as bien.
T'as bien?
Oui. Je vais donner un peu mon background. Moi, j'ai des diplômes universitaires, gestion d'entreprise, communication interpersonnelle, psychologie juvénile, mais lui, je ne l'ai pas fini. OK? Je suis en affaires depuis longtemps. J'ai appris une chose. Quand je dis à quelqu'un, peux-tu faire, par exemple, un exemple bien sûr, je passe le balai. Oui, je le fais. Moi, j'ai appris avec le temps, confirme. Parce que la plupart des gens écoutent, mais ne comprennent pas. OK, qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Passer le balai, tout ça, tout dans le calme. Moi, personnellement, je traite mes employés avec un très, très, très grand respect. Exemple, j'ai un employé qui rentre le matin, comment ça va, mon gars? Écoute, je fais le pot aujourd'hui. Good. Sais-tu quoi? Retourne à la maison, va te reposer, je vais même te payer ta journée. Pourquoi? J'aime mieux un employé bien reposé, heureux, qu'un employé qui rentre malheureux, qui file pas, il me donnera pas le rendement que je veux. Moi, mon entreprise est avec l'Union des artistes. Et donc, j'ai une clientèle qui est super cool, super le fun. Par contre, je me fais manger la laine sur le dos, mon ami. Tu ne peux même pas imaginer.
OK, donc les employés abusaient parce que vous étiez trop bon.
Il y en abuse. Maintenant, depuis, je te dirais, depuis 2 ans, j'ai changé un petit peu d'attitude.
C'est ça. Vous avez quoi? Vous serrez la vis un peu plus?
Bon, je serais bien. Écoute, appelle-moi, ça me prend. Écoute, j'ai un de mes employés. Écoute, sa mère est morte 7 fois dans la même année. il gardait sa job. Je me disais, garde. Le gars, il y a un problème. Il y a eu un problème d'alcool, d'alcool, de consommation. Ouais. J'ai payé de mes poches la désintox pour l'aider. Écoute, je pense qu'un bon boss, c'est un boss qui est capable d'être autre chose qu'un bon ami, d'être quelqu'un de compréhensible. Mais c'est quelqu'un qui doit être compréhensible aussi. J'ai des confrères qui sont dans le même domaine que moi. Ils traitent leurs employés, je te dirais, à partir du matin au soir. Tu peux même pas imaginer comment ils les traitent. Ils ont des trollés de CV, de demandes d'emploi. Ils rentrent le matin, ces boss-là, puis ils disent, ils en choisissent 3-4, puis ils pitchent dehors. Ben, regarde, tu viens de perdre ta job. Pourquoi? Ils t'ont montré, il n'y a pas personne d'indispensable. C'est inimaginable comment ils sont maltraités. Moi qui traite mes employés, écoute, je fournis des véhicules.
Il y a un manque de respect.
C'est carrément, regarde, ils nous donnent tout. Fait que, sais-tu quoi, on va le flusher. Mais j'ai des grosses entreprises, moi, qui m'ont approché, pour que j'aille pour eux autres. Pour travailler pour eux.
Okay. Mais c'est intéressant, Maxime. Merci, Maxime, de votre appel. C'est intéressant parce que ça se fait dans les deux sens, là. Tu sais, bon, on dit qu'est-ce que ça prend pour être un bon patron, mais il faut aussi savoir ce que ça prend pour être un bon employé, un bon employé, parce que si l'employé est désagréable, le patron ne sera pas le fun.
Non, ça c'est clair et net. Et puis c'est sûr que bon, avec toutes les phrases qu'on a vues cette année, on parle beaucoup des patrons, ce qui est normal parce que c'est les patrons qu'on a vus agir de telle manière. Mais il y a des employés qui sont tout aussi catastrophiques dans leurs agissements aussi. Là, il faut pas. Il y a très peu de patrons versus le nombre d'employés. Donc, il y a une certaine vision de la population en général d'un patron qui est biaisé parce qu'on prend 2-3 personnes et puis on va essayer. On généralise souvent le tout. C'est une position être patron que beaucoup de personnes veulent, mais une fois qu'ils goûtent 2-3 minutes, ils sont plus sûrs
de
vouloir.
Ils sont pas tout le temps certains.
La fameuse phrase « It's lonely at the top », ben c'est vrai pas à peu près.
Souvent, il faut faire la distinction entre l'individu puis le rôle du patron. Quand tu rentres en organisation, tu as des objectifs, tu as une vision, tu as des buts à atteindre, tu as des résultats à atteindre. Fait que c'est avec ça qu'il faut que tu accompagnes ton équipe. Puis ton alliance est importante. Tu sais, ta constance, ta cohérence. On travaille, on rentre à matin, là, ben on a des objectifs à faire, puis on a une vision à long terme.
Ouais. Puis souvent, le patron, il y a un patron, là.
Absolument, absolument.
Lui aussi, là, il doit répondre à des exigences d'une certaine autorité, là.
Puis quand on a des employés comme ça qui peuvent abuser, puis tout ça, faut être en mesure de documenter, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est mettre les limites. C'est important de mettre ses limites, puis d'oser le dire.
On va aller parler à André. Il y a beaucoup de gens qui appellent. C'est le fun de vous entendre. Bravo. Bonjour, André.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, ça va bien vous-même.
Très bien, merci. Écoutez, félicitations pour votre émission. Puis j'aime bien votre sujet ce matin. Vous venez de me faire réaliser quelque chose.
Allez-y.
Moi, j'ai pas mal partagé entre la route et la répartition dans le domaine du transport. Puis je viens de réaliser que pourquoi qu'à tous les 2 ou 3 ans maximum que je fais dans une entreprise, je finis trop par perdre ma job. C'est que je protège trop ma gang.
Ah.
À l'inverse, je pense pas être un mauvais boss. Je pense pas non plus être nécessairement un super bon boss. Mais en protégeant trop ma gang, je me mets à dos mes boss.
Mais vous voulez dire quoi, André, protéger trop? Donc, vos employés, vous les surprotégez?
Ben pas surprotéger, mais disons, je vais prendre leur part. Je vais beaucoup les défendre.
Donc, c'est au niveau de la direction plus haut là que vous éprouvez des problèmes. OK.
Exactement.
Ça fait du sens à mes oreilles parce que je pense que lorsqu'une entreprise décide d'engager un cadre, ben souvent ce qu'ils veulent c'est que le cadre les aide à diriger l'équipe dans la direction stratégique qu'ils ont choisie. S'ils sentent que le cadre force pas dans la même direction qu'eux, souvent ils vont peser sur le piton du siège éjectable pour pouvoir atteindre leur objectif.
Exactement.
Ben merci beaucoup de votre appel, André. Merci, bonne fin de journée. J'aimerais vous faire réagir sur ceci au retour, mes 3 invités. Là, je vais vous nommer parce que beaucoup de gens nous demandent qui vous êtes. David, il y a des gens qui veulent chasser le chasseur de tête. Est-ce que ça se peut, ça?
Ben, si on a des besoins en chasse de tête, oui, ils peuvent m'appeler, ça va me faire plaisir de les
aider. Alors, nos invités sont David Dion, il est associé chez Recrutement Précision. Le Nicolas que vous entendez, c'est Nicolas Duvernois, président de Pure Vodka. Et Brigitte Paquette, elle est présidente de Direct Coaching. Et je vous laisse sur cette phrase, et tout le monde y réfléchit, puis on en parle au retour. Selon le magazine Forbes, le tiers des employés quittent leur job, leur emploi, parce qu'ils n'aiment pas leur patron. Oui, quand même, c'est pas banal, on en parle au retour. Ah ben, le sujet fait réagir. Il y a des gens qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont réalisé qu'ils étaient peut-être pas le patron qu'ils espéraient être. Il y a des prises de conscience, et il y a des gens qui sont des employés, qui se disent, ben, coudonc, je ferais peut-être un bon boss, moi, j'ai les qualités que ça prend. J'aimerais vous entendre, mes 3 invités, sur la phrase que je vais vous redire. J'aimerais vous entendre vos pensées à ce sujet-là. Si je vous dis que le magazine Forbes prétend que le tiers des employés quittent leur travail parce qu'ils n'aiment pas leur patron, est-ce que vous croyez à ça, vous?
Absolument.
C'est une personne sur 3 qui quitte sa job parce qu'ils ont un problème avec leur patron.
Les gens quittent les gens. Les gens ne quittent pas les organisations. Si je suis dans un climat qui est malsain, qui me permet pas de m'épanouir, de développer le plein potentiel qui m'habite, pourquoi j'y resterais?
David?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, faut aussi réfléchir à quelles sont les raisons que les employés aiment pas leur patron. Donc ça englobe plusieurs raisons. Un patron peut se faire détester pour plusieurs raisons, soit parce qu'il manque d'empathie envers ses employés ou qu'il est pas capable de reconnaître leurs bons coups ou qu'il est pas capable d'investir dans leurs forces puis de les mettre en valeur.
Qui manque de vision
ou de leadership. Il peut être trop mou aussi. Là, je veux dire, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles un employé peut venir à ne pas aimer son boss, puis j'ai aucune difficulté à croire qu'un tiers des gens quittent leur emploi à cause de leur patron.
Aucune difficulté aussi à y croire. Je mets un petit bémol, par exemple, à la défense des patrons. Il y a beaucoup d'employés aussi qui refusent d'être, entre guillemets, patronnés. Il y a énormément d'employés qui refusent l'autorité.
Qui ont de la difficulté avec l'autorité.
Énormément. Puis l'autorité, je parle pas militaire, mais juste de se faire dire, ben aujourd'hui, tu dois faire ça. Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec ça.
Qui ne tolèrent pas ça.
Exactement.
Est-ce que ces gens-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, des gens qui ne supportent pas l'autorité, est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient être patrons, nécessairement?
Non, parce que un bon employé veut pas nécessairement dire un bon patron. Un bon patron veut pas nécessairement dire un bon employé. Je crois qu'il faut pas mélanger tout puis faire des amalgames rapidement. Mais c'est sûr que l'autorité, quand tu es un patron, il faut que tu saches bien l'utiliser. Et l'autorité, quand tu es un employé, il faut que tu puisses l'accepter.
Est-ce qu'il se pourrait que ce soit plus visible chez les jeunes? Parce que les jeunes, ils aiment, la nouvelle génération, ils aiment pas trop quoi se faire dire. Brigitte, je vous vois dire oui, là.
Mais c'est certain. C'est pour ça qu'on dit de plus en plus que les hiérarchies s'aplatissent. On cherche beaucoup à chercher la gestion transversale, collaborative, où est-ce qu'on peut s'asseoir, entendre tout le monde. Dans ce cas-là, les jeunes vont participer davantage, ils vont s'impliquer. Puis c'est aussi dans les grandes qualités des bons boss, c'est d'apprendre à responsabiliser aussi les ressources, à susciter l'engagement, à donner du sens à ce qu'ils font pour que justement, quand on dit « bon, ben là, on fait ça », tu sais, c'est...
Mais les jeunes, oui.
Il y en a beaucoup. Là,
on a beaucoup. Pure Vodka, oui, nous, on est une équipe très jeune. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clichés, selon moi, sur la jeune force de travail. Il y a aussi beaucoup de clichés sur la plus vieille force de travail, oui. Ou celle avec de l'expérience. Quelqu'un qui, ça fait 26, 27 ans, qui fait quelque chose d'une manière, vient pas lui dire, ben, il faut le faire d'une autre manière, là. Ça ira mal. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, un bon boss doit s'adapter. Et plus qu'à un changement de génération, aujourd'hui, avec, il y a encore de plus en plus d'immigrants sur le marché du travail. Okay. Il y a les religions qui rentrent en compte. Aujourd'hui, un boss doit être un véritable danseur de ballet, ouais. Où il doit gérer ça. Là. Il y a des réalités.
Mais on marche un peu sur des œufs.
Totalement. Ouais. Totalement.
Je voudrais rajouter un point là-dessus. C'est aussi je pense que ce qui est important de souligner, c'est que c'est pas exclusivement un problème générationnel. Je pense que c'est aussi une question de rapport de force. Il y a eu un temps où l'employeur avait un rapport de force total sur la main-d'œuvre. Si t'étais pas assez bon, on te mettait dehors, il y en avait 10 qui prenaient ta job. Ouais, maintenant, la génération Y bénéficie d'un marché où est-ce que quelqu'un de qualifié peut facilement se retrouver du travail rapidement. Ce qui fait en sorte que ça met les boss en compétition les uns envers les autres pour créer des environnements de travail.
Très intéressant,
ambiant.
David.
Absolument.
On va aller au téléphone. Il y a Mina qui aimerait nous faire, en fait, peut-être nous faire réfléchir à quelque chose, puis vous allez pouvoir lui répondre. Bonjour, Mina.
Oui, bonjour, Marie-Hélène.
Bonjour, ça va bien?
Oui, excusez-moi, ma voix est un peu rock. Écoutez, c'est un super, super, super des... Wow, écoutez, c'est la première fois que j'y réagisse comme ça à la radio. Et le sujet est juste phénoménal.
Mais pourquoi ça vous intéresse autant?
Ben, j'aimerais d'abord saluer nos trois invités parce que ils ont tous apporté des sujets très importants qui, s'il y a des boss qui les écouteraient, ça ferait beaucoup réagir, ça ferait beaucoup faire réfléchir à certains boss pour pouvoir se rajuster. Écoutez, moi, je vais donner mes propres exemples. J'ai travaillé dans le domaine de la santé et j'avais une gestionnaire qui était exécrable. Donc, quand elle arrivait sur le plancher, ben, c'était tout le monde s'enfuyait parce que c'était intolérable.
Elle contaminait tout le monde.
Oui. C'était vraiment un régime assez dictatorial. C'est vraiment dans ça que je vais m'en aller. Et jusqu'à un certain point, on se disait, ben, on va essayer d'aller lui parler, mais personne n'osait aller parler. Mm-hmm. Bon, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup ma langue dans ma peau. J'ai dit, ben, je vais aller la voir. Je suis allée la voir et puis je frappe, je m'assois. J'ai dit, est-ce que vous avez quelques minutes? Oui, mais j'ai pas le temps. J'ai dit, mais si vous avez quelques minutes, dites-moi quand vous serez prête.
Ouais,
Bon, là, j'entre dans le bureau, je ferme le bureau, je dis, est-ce que vous permettez que je ferme le bureau? Pas de problème, je ferme le bureau, je m'assois.
Mais j'ai dit, man. Il nous reste peu de temps, Mina, je veux vraiment que vous alliez à l'essentiel.
Oui, c'est ça, mais c'est vraiment, pour toucher l'essentiel, c'est vraiment, les boss, si ces boss pouvaient faire de genre de rétroaction avec les employés, essayer de voir comment ils gèrent l'emploi, la boîte. Parce que on comprend bien qu'ils ont une grande responsabilité, mais je crois qu'il y a aussi pour eux la responsabilité de pouvoir voir la satisfaction des employés, vice-versa, la satisfaction des employés et la satisfaction aussi des employés par rapport au boss.
Ce que je comprends, Mina, c'est que de ce qu'elle nous demande, c'est qu'il y a des tests d'évaluation peut-être qui soient passés autant au niveau de l'employé que de l'employeur. Est-ce que ça se fait en entreprise, ça, les tests d'évaluation?
Oui, bien, vous voyez, chez Recrutement Précision, nous, on le fait. Donc, on envoie un sondage aux employés, puis on les invite à évaluer les patrons pour qu'on puisse prendre ça, prendre le feedback, puis s'ajuster, puis voir où est-ce qu'on, comment on peut faire pour les rendre plus heureux.
Merci beaucoup, Mina, de votre appel. Mais il nous reste à peine 2 minutes.
Très important, quoi, Nicolas, pour un patron, moi qui suis un patron, de savoir ce que les employés pensent de moi. Ça, c'est sûr et certain. Et je serais jamais offusqué que quelqu'un me dise, mais écoute, ce matin, t'as été raide ou je sais pas quoi. Parce que si je veux devenir justement un meilleur patron, ben, il va falloir, il faut que le monde
ça
me dise.
D'ouverture.
Oui, ben, c'est
si
ça.
Tu sais pas comment tu peux t'ajuster.
Ben, exactement.
Ça prend beaucoup d'ouverture aujourd'hui.
Exactement. J'ai commencé l'entrevue en vous demandant les deux qualités essentielles. Il nous reste 1 minute. Wow. Dites-moi, quelles sont les choses à éviter complètement? S'il y a quelqu'un devant nous là, qui agit de telle façon, là, on sait que ça va être un boss épouvantable et un dictateur et qui pourra abuser de son pouvoir. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui vous dérangerait, vous, Brigitte, par exemple?
Bien, selon moi, l'organisation, c'est une occasion de contribution. Mais les gens, je pense, les mauvais boss prennent cette dynamique-là plus comme une arène pour leur propre pouvoir. Fait que je pense que c'est là toute la différence. Si t'es là juste pour ton jeu, t'es pas à bonne place.
Moi, j'aime bien regarder comment ils fonctionnent en famille. Moi, je suis un peu différent. J'aime regarder s'ils prennent soin de leur famille, s'ils voient leurs enfants, s'ils sont divorcés, ce qu'ils voient une fois par mois ou ce qu'ils voient plus souvent. Ça dit beaucoup d'une personne, comment il est dans la vraie vie, et ça me donne beaucoup d'indices.
Mais on revient à la sensibilité dont on parlait en tout début d'émission.
L'humain.
Je vous remercie beaucoup tous les trois.
La tempérance, une grande qualité pour un boss.
puis l'empathie, tu sais, je trouve donc que
tout
ça manque.
Tout d'un coup, on en trouve plein.
Ouais,
là.
Non, ça, oui, ça manque, l'empathie. Alors, Brigitte Paquette, David Dion, Nicolas Duvernois.
Ouais, tout le monde dit ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai les deux, j'accepte les deux.
Merci beaucoup de votre visite.
Merci à toi,
Marie-Hélène. On se demande si c'est bon de tout dire.